Bon, mais merci beaucoup pour les comités d'organisation de ces 2 journées extrêmement riches pour comprendre le travail de service. C'est très, très, très intéressant et je vous remercie beaucoup pour tout le travail que vous en avez dû faire et sont en train de faire. Donc, moi, je vais essayer de parler un peu de ce que j'ai fait depuis quelques temps. Ça ne va pas me rajeunir beaucoup, mais on va voir. Donc, je vais essayer aussi, c'est impossible de parler tous les raisonnements parce que finalement, j'ai écrit 18 pages. Si je lis ça, ça ne marche pas. Donc, j'ai essayé de raccourcir le plus possible pour entrer dans les temps. Donc, dans la littérature féministe, au départ, on parlait de la femme, les travails de la femme. Donc, après, on l'a mis au pluriel, les femmes, pour se rendre compte que les femmes avaient une classe, une race, une ethnie, un âge, une sexualité, bref, une grande hétérogénéité, source de richesses, de complexité à l'intérieur de ce groupe social. Il est important de rappeler que si aujourd'hui les études féministes sont en mesure d'analyser, comprendre le travail des femmes et en discuter, d'en critiquer, dans toute sa complexité, son hétérogénéité et sa richesse, c'est parce qu'au départ, il y a eu celles qui ont commencé à étudier la femme et qui ont dit que c'est des femmes blanches, de classe moyenne, riches. Bon, si on n'avait pas ces gens-là au départ, probablement aujourd'hui, on ne serait pas ici en train de discuter ce sujet. Donc, je pense que c'est important de mettre ça dans une perspective historique, parce que les études féministes ont une histoire qui vise toujours à saisir cette complexité et de rendre visibles les enjeux de l'univers des femmes. En 1995, j'ai écrit ma thèse de doctorat sur les caissières du supermarché. J'ai toujours été intéressé par le travail dans les services et les travaux qui sont traditionnellement féminins. Donc, j'ai étudié pas mal dans tous ces différents types d'emplois. Donc, nous avons à l'époque utilisé l'idée d'une intersection des rapports sociaux, des classes, sexe, genre et des races et ethnies. Aujourd'hui, nous préférons utiliser les concepts de consubstantialité, tels que proposés par Daniel Kerguat, pour signifier l'unité d'une substance entre différentes entités et ainsi nous aider à comprendre les mêmes et les différents dans un seul mouvement. Il est fait que bien que ces entités soient distinctes, elles ne peuvent pas être comprises séparément, sous peine de les réifier. Et il faut aussi ne pas essayer de hiérarchiser les rapports sociaux. Okay? Donc, à la fin, je vais vous dire pourquoi que je fais ce choix-là. Okay? Mais en ayant utilisé l'intersectionnalité dans les années 90, aujourd'hui, je pense que ça m'aide beaucoup plus ces concepts de consubstantialité pour saisir les travails de service aujourd'hui. Donc, on va parler de travail de service, on va parler des violences dans les services. Tout en essayant de comprendre la dynamique et la complexité qui existent à l'intérieur de ces 2 concepts-là. Et voilà. Donc, le travail dans les services, extrêmement difficile. Parce qu'on a vu hier la variété, la hétérogénéité. Donc, la théorisation, elle est difficile. Il y a des gens qui ont des contacts avec les clients, d'autres qui ne l'ont pas. Il faut faire une distinction, et Barbara Gutek a écrit un livre très intéressant où elle fait la distinction entre une rencontre et une relation. Donc, un préposé au bénéficiaire, donc mon collègue parlait hier, si le bénéficiaire est là depuis 6 mois, 1 an, il a une relation avec cette personne-là. Tandis qu'une coiffeuse qui travaille dans les centres-villes où il va rencontrer et couper les cheveux d'une personne une fois dans sa vie, c'est une rencontre. Et ça fait un changement majeur, et je ne veux pas le développer ici, mais dans les livres qu'Elena a organisés sur l'équerre, Je l'ai fait pour, par exemple, le développement des relations de confiance entre les travailleurs, la travailleuse et les clients. Et ça va avoir un impact d'avoir une charge de travail émotionnel moins élevée quand la confiance est présente. Donc, toute cette grande hétérogénéité est source de beaucoup de difficultés essayer de saisir ce travail-là, de comprendre. Donc, moi, j'ai proposé, depuis quelques temps, 5 dimensions pour comprendre le travail dans les services. Une dimension physique, donc il y a des efforts physiques qu'on doit faire au travail, des efforts cognitifs, mais il y a aussi toute une dimension corporelle. Donc, le corporel, dans la littérature, il y a une multiplication du nom du concept. Parfois, il y a des gens qui vont dire le travail esthétique, le travail sexuel au corporel, mais ils signifient tous la même chose, c'est-à-dire le corps, il est instrumentalisé dans la production de services. Donc, des gens vont être obligés, les corps vont être façonnés. Si vous vendez un produit MAC, un maquillage, probablement vous n'avez pas à en avoir 50 ans. Vous devez être jeune, vous devez avoir une coupe de cheveux, et vous devez porter les maquillages pour montrer qu'effectivement, votre corps devient un instrument de marketing pour cette compagnie. Okay? Pensez-y à le décolleté, à la jupe, tout. Les corps au complet rentrent dans la production de ce service-là. Avec une autre particularité très importante, qui est complètement inexistante dans le travail industriel, c'est qu'il y a certains métiers où il y a un contact direct, corps à corps, du travailleur, de la travailleuse, avec les clients ou les patients. Pensez à une coiffeuse qui doit toucher aux cheveux. Pensez-y à une infirmière, un préposé qui doit nettoyer les personnes ou mettre une sonde, tout, il y a un contact corporel. Ça, il y a des contraintes assez importantes. Hein? Par exemple, la personne peut-être n'est pas propre. Il y a les dégoûts. Une infirmière qui va me dire, je dois déshabiller, il est un itinérant, ça sent le diable. Et je ne peux pas faire comme ça et faire une grimace. Donc, je dois gérer mes émotions pour être capable de faire ça d'une manière la plus éthique possible, mais c'est très difficile. La question de la propreté, les médecins, les coiffeuses, les infirmières, tout le monde qui est en contact direct, et moi j'ai déjà écrit sur les questions du dégoût au travail, exactement à cause de cette relation corps à corps. Il y a une dimension relationnelle, c'est-à-dire toutes les compétences sociales dont Goffman parle, qui doit soutenir les rapports entre les travailleurs et les clients. Il y a une dimension émotionnelle. Je ne veux pas rentrer, j'ai déjà fait ça plusieurs fois, donc je ne veux pas rentrer pour expliquer plus que ça. La question, c'est ces 5 dimensions-là. Okay? Je vous ai présenté, je vous présente séparément pour une question mèrement didactique. Dans la vraie vie, ok, ces 5 dimensions-là sont ensemble. Il y a les travailleurs, la travailleuse, les vies d'une manière consubstantielle. Donc, là, les concepts de consubstantialité, c'est, par exemple, ça m'aide à voir ces 5 dimensions qui les travailleurs, la travailleuse va les vivre, va l'expérimenter d'une manière. Et il y a des liaison entre ces dimensions-là. Par exemple, la dimension physique du travail influence l'accomplissement du travail émotionnel. Une caissière de supermarché, une caissière de supermarché nous a rapporté qu'après avoir travaillé 8 heures debout, elle avait mal aux jambes. Donc, c'était beaucoup plus difficile de sourire. Elle dit, j'aime beaucoup mes clients, mais j'ai mal. Donc, c'est très, très difficile. Dans certains cas, par exemple, des professionnels de la santé, un médecin, un anesthésiste, il a dit, ben, après 10 heures de travail, j'ai beaucoup moins d'empathie, hein, avec les patients parce que je suis fatigué. Donc, cette dimension corporelle va demander aussi du travail cognitif, émotionnel, relationnel. Par exemple, je vous ai parlé de l'infirmière qui devrait nettoyer les itinérants. Il y en a plusieurs d'autres exemples. Les textes probablement vont être, au moment donné, publiés, vous pouvez le voir, mais toutes ces dimensions sont intrinsèquement associées. Okay? Une infirmière qui met une sonde dans un homme qui va avoir une érection. Et là, elle est choquée parce qu'elle voit que la personne a une érection, donc elle doit, d'une manière, à faire un travail cognitif, mais aussi un travail émotionnel, tout dans cette question de minutes, secondes où le travail, il est en train de... Il y a aussi l'effet que ces dimensions sont traversées par différents rapports sociaux. Donc, il y a une caissière du supermarché au Québec qui va me dire, j'ai travaillé dans un quartier qui est beaucoup plus pauvre, qui est peut-être aussi plus âgé. Ici, c'est plus jeune, c'est plus riche, plus argenté. La différence est énorme. Les gens, n'est pas parce qu'ils sont pauvres qu'ils ne sont pas fins, qu'ils ne sont pas polis. La personne la plus chaleuse, d'après moi, c'est les plus fortunés, parce qu'ils ont les moyens de payer pour un service impeccable, correct. Je pense que c'est les plus chaleurs. La personne qui n'a pas d'argent, elle va avoir un petit sac, puis elle va s'en aller avec son petit bonheur. Elle n'a pas connu d'autres choses, peut-être. Je pense que c'est pire les magasins ou côté chalage. Et Harley Rochard va dire exactement la même chose. Elle va dire, dans les classes sociales moyennes et élevées, le travail émotionnel est plus exigeant. Hein? Donc, dans ces discours, on va voir, c'est juste pas la classe, il y a les genres, il y a l'âge et, qui vont avoir un impact pour la dimension relationnelle, la dimension aussi relationnelle du travail. Donc, ces dimensions sont aussi genrées, sexées, il y a aussi la race. Tous ces rapports sociaux vont traverser. Donc, ils sont consubstantiels dans cette imbrication. Donc, vous comprenez, c'est beaucoup plus complexe qu'on peut imaginer ou que l'intersectionnalité peut nous donner comme possibilité à voir. Ces dimensions sont sexées dans le sens où il existe clairement une division sexuelle à l'intérieur de chaque dimension du travail dans les services. Par exemple, la dimension physique. Aux hommes, on confie les tâches lourdes, comme la manipulation des poids. Aux femmes, les tâches légères. Ça, c'est l'idée. Mais quand on va regarder, on voit que ça, c'est absolument pas du tout cette séparation, ni la hiérarchisation, ni la séparation, a aucune possibilité de se tenir quand on analyse. Je analyser ici le travail des éboueurs, hommes-femmes. Il disait pour moi, les femmes ne peuvent pas faire du travail d'éboueur pour les déchets domestiques parce que c'est trop lourd. Ici, elles travaillent juste dans la collecte sélective. Or, la collecte sélective, il y en a 3 camions par jour. Chaque camion, c'est 15 tonnes. Donc, il y a 3 personnes pour un camion. Dans les déchets domestiques, c'est les mêmes camions, donc c'est 15 tonnes. Ils font aussi 3 voyages. Donc, ça n'a aucune différence. Il y a 3 personnes. La seule chose, c'est que qu'est-ce qui pèse plus? 1 kilo de plomb ou 1 kilo de plumes? Donc, peut-être que les sacs sont moins lourds, mais au bout de la journée, autant la travailleuse ou les travailleurs ont fait les 15 tonnes chaque. Okay? Donc, il y a aussi les différents rapports sociaux qui vont s'exprimer, différentes divisions sociales du travail en termes de classe, de sexe, race, ethnie, âge. Il faut comprendre aussi que le contexte, il est très important. Et le contexte, il est aussi traversé par ces rapports sociaux. Et il y a un contexte de la société, et il y a les contextes organisationnels. Et dans les contextes organisationnels, sont aussi traversés par ces rapports sociaux. Donc, il y a différents niveaux. Parfois, ça peut être réglé au niveau de l'organisation, mais dans la société, ce n'est pas du tout réglé, le sexisme, la discrimination, où donc, il y a dans un supermarché où les propriétaires me disaient, j'ai pas de problème avec les hommes. J'ai embauché les garçons. Mais regarde, et là, j'étais dans son bureau, je regardais concrètement. Il y avait une file pour passer avec la caissière à côté, et lui, il n'avait personne. Il a dit, vous savez, les clients n'aiment pas les garçons. Je pense parce qu'il a de certains gestes, un peu des tendances, comment je veux vous dire, homosexuels. Donc, je pense que la clientèle n'aime pas, je vais les congédier. Donc, même si dans l'organisation, il n'avait pas fait, il avait juste un quand même, mais il avait au moins un. La division sexuelle du travail dans la société, il y a aussi un impact. Il y a une relation très dialectique entre l'organisation, la culture organisationnelle, et j'ai développé ici pour tous les rapports sociaux, les différentes dimensions pour arriver là. Tout ça pour vous dire aussi que dans les services, nous avons, parce qu'il me reste 2 minutes, donc je dois parler minimalement de les questions de la violence. Vous voyez, 56% des cas, et ça c'est vraiment des chiffres qui c'est la pointe d'un iceberg, je ne peux pas, je n'ai pas le temps de critiquer, mais c'est juste les cas qui ont été acceptés au Québec. Donc, c'est vraiment extrêmement petit. On a payé en 2014, c'est les dernières années de la statistique qu'on a accès, 12 millions de dollars canadiens en indemnité à cause des lésions, des violences au travail. Et nous avons les deux secteurs où il y a plus de violences. Les premières, c'est la santé, les deuxièmes, c'est l'éducation. Et ces deux secteur-là, traditionnellement féminin, beaucoup plus de femmes, la violence est beaucoup plus présente pour les femmes. 56% sont dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Donc, je vais vous donner les cas de Ginette. Ginette, c'est une secrétaire dans un hôpital. Quand je l'ai rencontrée, elle a 57 ans, elle avait 57 ans, elle est blanche, québécoise. Quand elle était dans la quarantaine, parce que l'âge est important dans ce cas-là, elle a vécu du harcèlement sexuel de la part de deux médecins. Ils s'amusaient à mettre dans son tiroir des photos, et elle va me dire, d'hommes nus assez membrés. Donc, à chaque fois que Ginette ouvrait son tiroir, elle faisait des sauts. Okay? Et elle était bouleversée par la situation. Et l'entourage riait, les gens faisaient des blagues. Donc, il y avait aussi toute une série de violences, d'humiliations qui existaient autour de ça. Ah, un jour, l'infirmière va découvrir, va voir les médecins, elle va être capable de faire un grief, et dans les griefs, elle va gagner. Donc, les médecins vont avoir une petite tape sur les doigts en disant, faites plus ça, c'est pas beau. Et donc, les harcèlements sexuels deviennent un harcèlement psychologique. Quand je rencontre Ginette, elle est déjà dans une pré-retraite par invalidité à cause du harcèlement moral qu'elle a vécu pendant ces années. Elle va m'expliquer que ce qui ça bouleversait tout ça, c'est que quand elle avait l'âge de 6 ans, elle était agressée sexuellement. Et donc, ça, c'était quelque chose qui était extrêmement difficile pour. Je veux finir, il me reste 3 morceaux pour parler pourquoi que je. Donc, dans la question de la violence, il y a aussi cette question de la consubstantialité. On peut parler de harcèlement sexuel ou harcèlement psychologique, mais il est extrêmement rare que les violences, ça arrive dans son état pur. Il y en a toujours 3, 4, 5 types qui sont ensemble. Il est très difficile de départager la souffrance. parce que Wittgenstein va dire que c'est impossible de comparer les souffrances. Donc, comment on va faire ça? Donc, pour moi, les violences sont aussi consubstantielles. Donc, cette idée de la consubstantialité, elle est très importante pour moi. Et je dois remercier toujours Daniel pour en avoir cette idée, à mon avis, brillante pour ces concepts-là. Et donc, pourquoi? C'est juste très, très vite. Dans le passé, nous avons utilisé le concept d'intersectionnalité. Nul peut être contre la vertu. Reconnaître l'interdépendance et d'incorporer les rapports sociaux est d'extrême richesse et importance pour qu'on puisse non seulement comprendre la complexité du travail des femmes, mais aussi rendre visible sa grande hétérogénéité, en particulier dans les relations de service, comme j'ai essayé de le faire. Donc, la question est de savoir comment on va le faire. Mon choix, c'est la consubstantialité. D'abord, parce que l'intersectionnalité, elle ne met pas en évidence la dynamique qui existe, la synergie qui existe entre les parties. Donc, entre les rapports sociaux, entre les dimensions, entre les violences. Donc, il n'y a pas cette synergie-là. Donc, ensuite, dans la plupart des cas, l'utilisation d'un concept d'intersectionnalité finit par privilégier ou mettre l'accent sur un rapport social en particulier. Dans ces cas, il y a toujours le risque de comparer, de hiérarchiser les rapports sociaux, et cela peut nous amener à une désensibilisation d'un rapport social par rapport à autre. Et on finit par raisonner d'une manière équivoque, comme l'a fait une infirmière québécoise qui va me dire « ben, quelqu'un qui me touche les seins, c'est moins grave que quelqu'un qui va m'agresser physiquement. Je peux vivre avec ça. » Donc, il n'y a pas une violence qui est plus, au moins, tout est également très, très, très important. Donc, toutes formes de violences sont graves, ainsi que tous les rapports sociaux, et ce qui m'amène à ce que Ruth Milkman a écrit récemment et que je partage avec elle, c'est qu'aujourd'hui, c'est cool de parler de genre, race, et les sujets moins cool, c'est la classe sociale. Donc, je vais dire juste une suggestion de lecture. West et Fenced Maker, dans Gender Society, dans les premiers numéros, ont écrit un article qui s'appelle « Doing Gender ». En français, il était traduit par « Faire le genre ». C'est une mauvaise traduction, mais « Doing Gender » et après « Doing Difference. Et elles vont effectivement, à ce moment-là, dans les années 90 déjà, critiquer la question de l'intersectionnalité et l'utilisation de concepts mathématiques pour expliquer des concepts sociaux en sociologie. Et donc, elle va dire on ne peut pas l'additionner, on ne peut pas multiplier. Donc, il y a tout un raisonnement. Je vous invite fortement à lire. Je pense que le concept stratégique de consubstantialité est plus adéquat aujourd'hui et ça permet de saisir cette dynamique des différents rapports sociaux qui existent aussi dans les relations de service, dans les contextes sociaux, organisationnels et d'une manière historique. Donc, je m'excuse pour avoir dépassé trop de temps, mais voilà.